C'est toi qui décides.
J'ai toujours préféré le train des marchandises.
Mais qu'est-ce qu'ils ont tous à s'entasser dans le même wagon? Moi, croire que tout le monde aime la même chose.
C'est la mode.
Mais il y en a pour tous les goûts.
C'est quoi la mode?
La mode repose sur le mimétisme et le jeu. Et c'est un fait social, dit fait social total, car il implique profondément les individus et touche simultanément aux environnements artistiques, économiques, politiques, sociologiques, des groupes sociaux concernés, mais aussi de ceux qui sont à leur contact.
Ah, oh,
oh,
l'écologie, c'est une mode?
Non, c'est une nécessité.
Vous avez entendu, Georges?
J'ai entendu.
En voiture, s'il vous plaît, en voiture, attention au départ!
C'est les allumeurs de réverbère.
Au sommaire ce mois-ci, dans les allumeurs de réverbère, nous commencerons par la rubrique « Lecture » avec un discours écrit il y a peu par un député français lu par Muriel Tillard. Cette lecture sera suivie d'un point sur les actualités internationales présenté par Clément Mousset, ensuite musique avec l'interprétation de Ray Charles du titre « Georgia ». En deuxième partie d'émission, nous retrouverons la rubrique « Hymne international » et ce mois-ci, il s'agit d'une édition spéciale sur la Palestine. Ce moment sera suivi par la rubrique « Environnement » où nous retournerons dans le jardin d'Anne-Laure qui nous fera découvrir l'ail triquetre. Pour la rubrique Initiative Actuelle, Antoine Lair s'est intéressé pour nous aux semences paysannes. Et enfin, pour cette émission du mois de mai 2022, nous retrouverons la rubrique Élu un jour, dans laquelle Jean-Pierre Lescornette, actuel maire d'une commune de plus de 12 000 habitants et président de la communauté de communes, nous racontera son parcours politique. Nous sommes les allumeurs de réverbère et nous vous souhaitons force et courage, amour, paix et prospérité, solidarité nationale et internationale, des rêves, de la résistance et des constructions extraordinaires à taille humaine. Allez hop, c'est parti, bonne lumière à tous.
La petite lecture.
Pour mon élection, il y a 5 ans, j'énonçais déjà. Mon adversaire, c'est la finance, bien sûr, mais c'est surtout l'indifférence. Car les gars et les filles, dans les boîtes, le savent bien. Se bagarrer contre un patron, c'est dur. C'est un mur, mais on peut s'y heurter, s'y confronter. Le pire, c'est de lutter au quotidien avec les collègues, lutter contre leur résignation, contre leur « à quoi bon », contre leur heure de défaite avant le moindre mouvement. Voilà le plus terrible des ennemis. Les autres, d'adversaires ou ceux du dehors, ils nous stimulent, nous galvanisent, on se prépare contre eux, on s'arme avec des tracts, des arguments, des actions. Mais le plus terrible des plus terribles ennemis, c'est le découragement des nôtres. On s'enlise dedans, on s'englue, et le risque, c'est qu'ils nous contaminent, c'est qu'ils nous ravalent lentement comme des sables mouvants. Voilà le plus terrible des plus terribles ennemis. Notre découragement à nous, ce froid qui monte de l'intérieur, ce gel qui s'installe dans nos cœurs, la mort rigide, la mort cadavérique qui s'installe dans nos vies. À quoi bon? À quoi bon encore se lever? À quoi bon encore espérer? À quoi bon lire, écrire, agir, discourir? À quoi bon? Ils nous veulent ainsi, sans le dire bien sûr, mais ils nous veulent ainsi, résignés, découragés, éteints, sûrs de n'être rien, de ne rien pouvoir, de ne rien valoir. Nos bras ballants, c'est leur victoire. Notre déprime, notre dépression, c'est un point qu'il marque. Je cite souvent cette phrase de Samuel Huntington, un intellectuel ultra-libéral américain qui publia plus tard « Le choc des civilisations ». En 1975, il rend un rapport sur la commission trilatérale intitulé « Crisis of Democracy ». Non pas « crise de la démocratie », mais plutôt « crise de démocratie », comme une crise de foi, parce que d'après lui, il y en a trop. Que dit-il ? La démocratie, c'est bien, mais ça marchait tant que des groupes, les pauvres, les femmes, les noirs, les esclaves n'y participaient pas. Voilà qu'aujourd'hui, on est dans l'après-68, tous ces gens prennent la démocratie au sérieux. Ils manifestent, ils protègent, ils s'organisent, ils votent. Comment voulez-vous avec tout ça que les gouvernements gouvernent tranquillement? Et Huntington propose alors ce remède, je le cite texto. Il nous faut instaurer de l'apathie politique. Cette apathie se combat. Elle se secoue en soi, avec des coups de sang et des coups de gueule, avec des chansons et des ballons, avec de la colère et de la joie, avec de la vie, quoi. Voilà à quoi j'ai servi, je crois, depuis 2017. Mes conquêtes matérielles sont mineures. la prime Covid pour les auxiliaires de vie sociale, un 13e mois pour les femmes de ménage de l'Assemblée, un congé de deuil rallongé pour les parents d'un enfant décédé, 3 collègues de sauvés. Mais là n'est pas mon utilité. Ma fonction est plus spirituelle. Vous nous faites respirer, me disent les passants. Vous entendre à l'Assemblée, c'est un bol d'air. Ou encore, une aide à domicile mal pague sur un bout de trottoir. Vous m'avez soulagée. Soulagée, c'est qu'à la souffrance bien réelle de peiner à remplir son frigo, s'ajoute une autre souffrance, plus symbolique. Le sentiment de n'être rien, comme dirait Macron. De ne compter pour rien dans la société, de n'être pas représenté. Eh bien, bizarrement, des hommes, des femmes, vous peut-être, éprouvent une fierté à me voir dans l'hémicycle, à m'écouter parler d'eux, parler d'elles, de leur vie, à me regarder taper du poing sur la table de ma cuisine. Et ils, elles, se raccrochent à mes vidéos, à mes propos, pour ne pas glisser, pour ne pas baisser les bras, pour ne pas se décourager, tout comme je me raccroche à vous. Voilà pourquoi je rempile, voilà pourquoi je vais y retourner les 12 et 19 juin prochains. Je me sens utile, utile à vivre et à espérer. Surtout, surtout, je veux montrer que ça marche. Je veux montrer que gauche et populaire, ces deux mots qui devraient aller ensemble, de soi, mais qui sont devenus un oxymore, une contradiction, je veux montrer que gauche et populaire, on peut les réconcilier. Je veux montrer que la gauche, une gauche qui reprend le fil de 1789, du Front populaire, de la Libération, de mai 68, je veux montrer que cette gauche peut gagner. Je veux montrer que le divorce organisé entre les cités de banlieue et les bourgs périphériques, je veux montrer que ces deux Frances peuvent un dimanche se retrouver autour d'un même bulletin. C'est pas gagné. C'est pas fait. C'est à nous de le faire. Signé, un député de la 5e République française, en poste depuis le 21 juin 2017, à gauche, dans l'hémicycle.
Les allumeurs de réverbères.
Climat. Des données satellitaires révèlent un changement climatique inquiétant dans le cycle de l'eau. En effet, ce dernier est en train de s'accélérer, et c'est loin d'être une bonne nouvelle, ce phénomène va engendrer des perturbations météorologiques encore plus intenses. Le réchauffement accélère le cycle d'évaporation de l'eau, ce qui a pour conséquence d'augmenter la quantité de vapeur dans l'oxygène, dont 90% finit par se précipiter dans la mer et 10% sur Terre. L'intensité des tempêtes va augmenter, et cela n'est qu'une des conséquences de ce changement du cycle de l'eau. Liberté d'expression, liberté de lire. Au large du Maine, État américain, se trouve la petite île de Matinicus. Cette dernière, peuplée d'une centaine d'habitants, abrite une bibliothèque qui collectionne les livres interdits. Parmi les ouvrages controversés, citons « Ne tirez pas sur l'oiseau moqueur » de Harper Lee, livre interdit en raison des thèmes raciaux, « Les raisins de la colère », livre interdit pour son utilisation de blasphèmes et de références sexuelles, ou encore « Et avec Tango, nous voilà trois », livre fondé sur l'histoire vraie de deux pingouins mâles ayant élevé un poussin au zoo de Central Park, livre le plus contesté des États-Unis pour sa représentation d'un couple homosexuel. Cette bibliothèque se distingue dans un pays qui va de plus en plus vers la censure. Réseaux sociaux. Mark Zuckerberg a fait fortune avec Facebook. Elon Musk, déjà bien riche, est en train d'acheter Twitter. Il est peut-être temps aujourd'hui d'utiliser des réseaux libres des intérêts financiers de ces milliardaires. Par exemple, il existe Mastodon pour éviter Twitter, réseau sans publicité, libre et géré par une multitude de serveurs hébergés chez des particuliers ou des associations. ProtonMail ou Posteo permettent d'éviter d'utiliser Gmail, messagerie où Google analyse les correspondances. Et on peut finir par Pixelfeld qui permet d'éviter Instagram. Conditions de travail. Selon le média d'enquête indépendant Disclose, le géant allemand de la grande distribution Lidl a mis en place un système qui brise ses salariés. Un culte de la performance basé sur des indicateurs comme le nombre d'accidents au travail, l'absentéisme, le turnover. Un classement est établi parmi les 1500 magasins et un top 20 est établi au niveau régional. Ce système malsain de compétition entraîne un maquillage des chiffres, avec également une pression pour que les accidents du travail ne soient pas tous déclarés. Employés chronométrés, reclassement inadapté, beaucoup de salariés vivent un enfer, allant parfois jusqu'au suicide. Insolite. La tortue Jonathan vit dans le jardin de Plantation House, résidence officielle du gouverneur de Sainte-Hélène, île isolée appartenant au Royaume-Uni. Jonathan a été officiellement reconnu par le livre Guinness des records comme le plus vieil animal terrestre vivant au monde. Elle serait née vers 1832 et aurait donc 190 ans. Malgré cet âge, la tortue a encore beaucoup d'énergie et a conservé une très bonne ouïe, même si elle a perdu la vue et une partie de son odorat.
Georgia, Georgia, the whole day through, just an old sweet song keeps Georgia on my mind.
Georgia on my mind.
I said, Georgia, Georgia, a song of you comes as sweet and clear as moonlight through the pines. Other arms reach out to me, other eyes smile tenderly, still in the peaceful dreams I see, the road leads back to you. I said, Georgia, Georgia, no peace I find, just an old sweet song keeps Georgia on my mind.
Georgia on my mind.
Other arms reach out to me, other eyes smile tenderly, still in peaceful dreams I see, the road leads back to you. Whoa. Georgia, no peace I find, just an old sweet song keeps Georgia on my mind.
Georgia,
I said just an old sweet song keeps Georgia.
C'était Georgia on my mind. Cette chanson est composée en 1930 par O.G. Carmichael sur des paroles de Stuart Gorel. Ici, elle est interprétée par Ray Charles. Ce morceau est particulier dans l'histoire de la ségrégation raciale. Ray Charles vient de Géorgie. Au début des années 1950, il décide d'aller faire un concert unique sur sa terre natale, dans la ville d'Atlanta. Quand il se rend compte que la salle dans laquelle il doit jouer est interdite aux Noirs, il annule sa représentation. 24 ans plus tard, en avril 1974, ce morceau, Georgia on my mind, dont Ray Charles est un des interprètes les plus connus, devient l'hymne de cet état, l'hymne de la Géorgie.
Eh ben, s'il y avait un petit peu plus de personnes comme ça et un peu moins de... Comme quoi ?
Fatigué,
fataliste.
Fabergé ?
Non !
Irréfléchi !
À bout de souffle !
Mal élevé !
Mal aimé !
Déjà mort !
Qui ne savent pas rêver !
Qui n'ont pas appris !
Qui n'ont pas appris !
Les gens sont si moches que ça, maman ?
Il y a des moments plus durs. Il y a des gens plus durs.
C'est quoi qu'on entend ?
Une bande son.
Les allumeurs de réverbères.
La rubrique hymne international.
La Palestine. La Palestine est un État situé au Moyen-Orient, reconnu par 136 États de l'Organisation des Nations Unies, qui revendique la reconnaissance de ces territoires, aujourd'hui partiellement occupés par Israël. Cette région a une histoire très compliquée. Essayons de faire un tour d'horizon, vous verrez que l'histoire est surprenante. Au XIIe siècle, le territoire de la Palestine actuelle était régi par les Mamelouks, des descendants d'esclaves. Leurs ancêtres, dès le IXe siècle, étaient choisis dès l'enfance parmi les captifs non musulmans en provenance du Turkestan actuel, du Caucase, d'Europe orientale et de Russie méridionale. Ils étaient choisis pour intégrer la garde des califes abbassides, des cousins de Mahomet situés à Bagdad, en Irak. Élevés loin de leur pays d'origine, les enfants sélectionnés devenaient ainsi des mamelouks et recevaient une éducation religieuse musulmane et une formation militaire. Arrivés à l'âge adulte, le sultan ou l'émir, le chef militaire, les affranchissait et leur fournissait un équipement et une solde. Les mamelouks devaient conserver toute leur vie l'esprit de corps et ainsi pouvaient être élevés à des grades supérieurs aux Égyptiens eux-mêmes, des gardiens serviles. Avant de prendre leur liberté en 1250, ils étaient au service de la dynastie des Ayyoubides. Étonnant, les Ayyoubides aussi, avant de prendre leur liberté et de former leur propre dynastie, étaient au service d'un autre royaume, celui de Néroudine, l'émir d'Alep. En 1146, avant que les Ayyoubides ne le renversent, Noureddin était une des principales figures d'opposition aux croisés venus d'Europe. Noureddin prônait l'unification des musulmans. Mais les croisés venus d'Europe pour chercher le tombeau du Christ, dans l'actuelle Syrie et en Égypte, l'affaiblirent. Et c'est à ce moment-là que les Ayyoubides se libérèrent et fondèrent leur propre dynastie et réduirent les Mamelouks en esclavage à leur tour. En 1170, Noureddin est renversé par les Ayyoubides. En 1250, les Ayyoubides sont renversés par les Mamelouks, qui forment eux aussi une dynastie où se succèdent 49 sultans. Et en 1517, les Mamelouks égyptiens sont renversés par les Turcs ottomans. La Palestine passe alors sous l'autorité de l'Empire ottoman. Quelques siècles plus tard, une autre communauté importante dans l'histoire de cette région arrive en Palestine, alors que l'Empire ottoman est aux manettes. Il s'agit des Abbades de Lubavitch. Les Abbades de Lubavitch, aussi appelés les Hassim Abbades, est le mouvement principal de la religion juive encore aujourd'hui. Le mouvement religieux des Abbades de Lubavitch s'est formé en Biélorussie à Liozna en 1772.
Histoire mondiale d'hier et d'aujourd'hui des Abbades de Lubavitch. 3 siècles en 1 minute. C'est parti!
Formé en 1772 à Liozna, actuelle Biélorussie, le centre du mouvement déménage à Lubavitchi en Russie jusqu'à la veille de la Seconde Guerre mondiale et l'arrivée des nazis où le siège déménage à New York. Aujourd'hui, le mouvement juif orthodoxe des Abbades de Lubavitch existe dans plus de 75 pays à travers le monde, 3300 institutions dans 950 villes, lieux de formation, centres communautaires, synagogues, écoles, camps de vacances. En 2007, 1350 établissements figuraient dans l'annuaire Abbade. La présence des membres de cette communauté est particulièrement importante aux États-Unis, en Israël, en France, en Russie, au Kazakhstan, en Pologne et en Inde.
Revenons à la Palestine. En 1776, les Abbades de Lubavitch arrivent en Palestine, qu'ils nomment la Terre Sainte. Ils s'installent à Tibériade et dans ses environs, à Jaffa et à Jérusalem. Et dans les alentours de Jérusalem, ils s'installent plus précisément à Hébron, qui se trouve à 35 km au sud de Jérusalem. Hébron est un lieu auquel les abbats sont très attachés, car il s'y trouve le tombeau des patriarches, les tombes de Abraham, Isaac, Jacob et leur épouse, des personnages très importants dans la religion juive. En 1823, pour augmenter la présence des abbats de Loubavitch en Palestine, un de leurs rabbis de Russie exhorte sa communauté de déménager à Hébron. En 1844, c'est même la fille d'un rabbin, la rabbézine Menoua Rokel Slonim, qui quitte la Russie pour Hébron. Elle y devient la matriarche de la communauté abbade en Palestine et Hébron est déclarée capitale des abbats de Loubavitch en Palestine par la communauté. Au même moment, l'empire ottoman qui tient sous son protectorat la Palestine se disloque. En effet, l'empire est confronté à des volontés d'indépendance de la part des différentes régions qu'il occupe. Déjà en 1830, soutenue par les puissances occidentales, la Grèce avait réussi à obtenir son indépendance, main dans la main avec le gouverneur d'Égypte qui lui aussi se moquait de l'empire, se comportant comme un souverain indépendant. Le gouverneur d'Égypte avait même eu l'audace de nommer son propre fils à la succession, ce qui à l'époque, de la part d'un serviteur de l'empire, constituait un précédent. Qui plus est, en 1853, l'Empire ottoman doit faire face à la guerre de Crimée face aux Russes et ne résiste aux assauts de ceux-ci que parce que le Royaume-Uni et la France le protègent. Et cette protection lui coûtera très cher. Peu de temps après, la France s'empare de l'Algérie, puis de la Tunisie, et le Royaume-Uni de l'Égypte, bien qu'elle soit indépendante de fait depuis le 19e siècle. En 1863, nouvelle débâcle pour l'Empire ottoman. Côté finances cette fois-ci, les finances et les douanes de l'Empire passent sous la tutelle de la Banque impériale ottomane, dirigée par un consortium franco-anglais. Et ceci critique, absence de vrai budget, irrégularité dans les rentrées fiscales et endettement croissant. L'Empire ottoman perd encore d'autres territoires. En Afrique du Nord, puis le Dodécanèse, un archipel d'îles de la mer Égée dans la guerre italo-turque de 1911, et pratiquement tous ses territoires européens lors des guerres balkaniques de 1912 à 1913. Alors en 1914, quand il faut choisir entre les deux camps de la Première Guerre mondiale, l'Empire ottoman ne choisit pas l'entente qui se compose de la France, de l'Angleterre et de la Russie, mais choisit de s'allier à l'Empire allemand. Les ennemis de mes ennemis sont mes amis. Les batailles qu'ils lancent sont des échecs et le territoire est ravagé par les épidémies et les famines. Pourtant, l'Empire continue ses exactions, entraînant avec lui ses territoires et notamment la Palestine. En 1915, l'Empire ottoman est responsable du génocide arménien, faisant plus de 1 200 000 morts. Les deux tiers de ces populations chrétiennes présentes sur le territoire de l'Empire furent exterminées. De 1914 à 1920, c'est le génocide assyrien, causant la mort de plus de 500 000 personnes, ce qui représente environ 70% de la population assyrienne de l'époque. Côté Palestine, les appels à volontaires pour s'enrôler dans l'armée de l'Empire ne sont pas suivis. Par contre, les rébellions menées par Hussein Ben Ali, shérif de la Mecque, qui a des ententes avec les Britanniques et dit vouloir libérer la péninsule arabique et créer un État arabe unifié, séparé de l'Empire ottoman, s'intensifient. Et le 1er novembre 2022, l'Empire ottoman est officiellement fini. Et la Palestine entre sous mandat britannique. Les noms de Palestine mandataire ou Palestine sous mandat britannique désignent le statut politique proposé par la Société des Nations Unies en 1920. Une résolution attribuant au Royaume-Uni un mandat sur la Palestine. Il ne s'agit alors que d'un mandat provisoire, mais que les Britanniques décident de mettre en œuvre dès le 1er juillet 1920. Et après différents échanges entre l'Empire britannique et la Société des Nations Unies, le mandat définitif entre en vigueur le 29 septembre 1923. Ces termes exacts et sa délimitation ont été l'objet de tractations entre Britanniques, Français, habitants de Palestine de toute religion, dans le contexte des différents accords et promesses passées entre eux. Tel que le définit la déclaration Balfour du 2 novembre 1917, reprise dans les dispositions du mandat, le mandat a pour objectif la mise en place en Palestine d'un foyer national pour le peuple juif sur la base du lien historique existant entre le peuple juif avec la Palestine dans le but de reconstruire leur foyer national dans ce pays, étant clairement entendu que rien ne serait fait qui puisse porter atteinte aux droits civiques et religieux des collectivités non juives existant en Palestine. Fermez les guillemets. Tout le monde n'est pas content de cette nouvelle attribution. Imposer d'accueillir une nouvelle communauté, de laisser des terres et de se plier aux règles de la Société des Nations, le nationalisme palestinien émerge. Des émeutes arabes se propagent contre plusieurs agglomérations juives. Les plus meurtrières éclatent à Jérusalem et à Jaffa, ce qui amène à limiter les dispositions de la déclaration Balfour sur l'immigration juive, afin d'apaiser la population arabe. Elles sont même suspendues ensuite par Herbert Samuel, le haut commissaire britannique en Palestine, qui décrète l'état d'urgence, et nomme Mohamed Amin al-Husseini grand moufti de Jérusalem. Cet homme, éduqué pour succéder à son père, ancien moufti de Jérusalem, est membre d'un des clans les plus puissants de la cité. Malgré qu'il ait combattu aux côtés de l'Empire ottoman contre les Britanniques, qu'il ait participé au renversement de la lignée des Hachémites et qu'il soit antisémite, c'est-à-dire qu'il n'aime pas les gens de confession juive, les Britanniques lui offrirent leur soutien pour qu'il devienne grand moufti de Jérusalem. Rapidement, Mohamed Amin al-Husseini deviendra l'instigateur des révoltes qui se tiendront contre les autorités britanniques et les juifs. En effet, 5 ans plus tard, le grand moufti ne se laisse pas convaincre par les Britanniques qui l'ont nommé. Devenu chef du mouvement nationaliste palestinien en 1925, il prône la lutte armée comme action politique pour récupérer les terres et empêcher le pillage des monuments par les juifs. En 1929, les émeutes de Palestine s'accélèrent. Suite à des rumeurs selon lesquelles les Juifs essaieraient de conquérir les lieux saints de Jérusalem, ces émeutes font au total 133 victimes juives et 116 victimes arabes. L'un des massacres les plus symboliques de cette période est le massacre d'Hébron, le 24 août 1929. La ville choisie par les Abbats de Lubavitch comme leur capitale en Palestine, où depuis ils ont développé la première école de confession juive du territoire. Pendant le massacre d'Hébron, les maisons de la population juive et les synagogues sont pillées, 67 juifs sont tués, 53 blessés, mais la majorité de la communauté juive d'Hébron, 435 individus environ, survivent. La plupart disent avoir été sauvés par des familles arabes, leurs voisins. Malgré tout, la communauté juive n'est plus acceptée par la suite dans la région. Ce massacre joue un rôle déterminant dans l'histoire du nationalisme palestinien et du sionisme, car il met un terme à une présence juive de plusieurs siècles à Hébron, où même les Abbats de Lubavitch ne s'y risqueront pas avant 1967.
Définition. Le sionisme est un mouvement national du peuple juif visant à la formation d'un foyer national juif et à l'autodétermination du peuple juif en terre d'Israël, correspondant à peu près à Canaan, à la Terre Sainte ou à la région de Palestine, leur lieu saint. Wikipédia.
En 1930, au lendemain du massacre d'Hébron, le mouvement nationaliste palestinien s'affirme encore, en coordination avec le grand moufti de Jérusalem qui fonde une organisation paramilitaire, la Main Noire, pour lancer des attaques contre les Juifs et les Britanniques. En 1937, le nationalisme palestinien est conforté par les déclarations antisionistes de l'ensemble des régions arabes limitrophes. Alors, afin d'apaiser le soulèvement de la population arabe de la Palestine mandataire et craignant de faire basculer les Arabes dans le camp de l'Allemagne à la veille de la Seconde Guerre mondiale, les Britanniques publient en 1939 ce qu'ils appellent le Troisième Livre Blanc, par lequel ils réduisent drastiquement l'immigration juive, limitent la vente de nouvelles terres aux Juifs et annoncent que sous 10 ans, la Palestine pourra devenir un État indépendant, unitaire, comme l'exigent les dirigeants arabes palestiniens. Au lendemain de la Seconde Guerre mondiale, le conflit entre la communauté juive et la communauté arabe de Palestine conduit à l'abandon par les Britanniques du mandat qu'ils décident de remettre à l'ONU. Celle-ci décide de procéder à un vote de partage du territoire en vue d'y créer un État juif et un État arabe, tout en faisant de Jérusalem et de ses alentours un corpus separatum sous statut international. Le plan de partage est voté à l'Assemblée générale de l'ONU le 29 novembre 1947, même si le plan est rejeté par les pays arabes et les Arabes de Palestine. Le 14 mai 1948, la veille de l'expiration du mandat britannique, David Ben-Gourion proclame l'indépendance de l'État d'Israël. Immédiatement après la proclamation, des contingents de 4 des 7 pays membres de la Ligue arabe à cette époque, l'Égypte, l'Irak, la Jordanie et la Syrie, ainsi que l'armée de libération arabe, envahissent le nouvel État d'Israël. On parle alors d'un petit David juif confrontant un Goliath arabe géant. Pourtant, pour le commandant en chef des forces britanniques de Palestine, le général John Darcy, l'armée nouvelle d'Israël, qui a été créée et se développe depuis les années 30, la Haganah, est la plus puissante force militaire du Moyen-Orient, à part l'armée anglaise. Durant la période du 15 mai 1948 à la mi-avril 1949, plus de 350 000 Palestiniens prennent la route de l'exode, fuyant les combats ou expulsés des zones contrôlées ou conquises par Israël. Simultanément, la situation des Juifs dans plusieurs pays arabes s'aggrave à la suite d'émeutes ou de politiques ouvertement antisémites comme en Irak, et l'immigration des Juifs hors des pays arabes s'amorce. En 1949, Israël signe des armistices séparés avec l'Égypte, le Liban, la Jordanie et la Syrie. Selon ces accords d'armistice, le territoire d'Israël comprend environ 78% de la Palestine mandataire, soit 18% de plus que défini par proposition de partition de l'ONU. 1949, la bande de Gaza et la Cisjordanie sont respectivement occupées par l'Égypte et la Jordanie qui incorporent ces régions ainsi que la vieille ville de Jérusalem à leur espace territorial. Le 20 septembre 1948, la Ligue arabe déclare la création d'un gouvernement palestinien et le 22 septembre, un gouvernement arabe de toute la Palestine est établi dans la bande de Gaza occupée par l'Égypte. Cette décision n'est pas acceptée par la Jordanie et n'est suivie d'aucune reconnaissance internationale. Le nationalisme palestinien renaît dans le milieu des années 60. Le Fatah, une des organisations regroupées au sein de l'OLP de Yasser Arafat, l'Organisation pour la Libération de la Palestine, installe en Jordanie un véritable État dans l'État. La Jordanie est un pays très jeune qui a été créé quelques années auparavant lors du plan de partage pour tenter de préserver de bonnes relations avec la dynastie des Hachémites, très puissante dans la région. Pourtant, les régions de Jordanie où les Palestiniens rejettent en masse l'autorité du roi Hussein de la dynastie Hachémite se multiplient. Depuis ces zones palestiniennes, l'OLP, l'Organisation pour la Libération de la Palestine, effectue des raids et des attaques terroristes contre le reste du territoire jordanien et contre Israël. Yasser Arafat, le leader de l'organisation, appelle ouvertement au renversement de la monarchie hachémite en s'appuyant sur le fait que 75% des habitants de la Jordanie sont alors palestiniens. Bientôt arrive la guerre de six jours, du lundi 5 au samedi 10 juin 1967. Cette guerre fait suite à la crise du canal de Suez, qui s'est tenue en 1956, 10 ans auparavant.
La crise du canal de Suez en 45 secondes.
En 1956, le président égyptien Nasser nationalise le canal de Suez. Pas content de devoir payer leur passage, la France et le Royaume-Uni soutiennent ensemble une attaque israélienne dans le Sinaï jusqu'au canal de Suez. La condamnation fut unanime dans le monde.
Salut la France, salut le Royaume-Uni, salut Israël. Pourquoi vous ne voulez pas payer des droits de passage et laisser les Égyptiens nationaliser un point économique et géostratégique important de leur territoire dont tout le monde se sert? Arrêtez de faire la guerre dès que vous êtes fâchés.
Les États-Unis, l'Union soviétique et l'ONU s'accordèrent sur la nécessité du retrait israélien et l'URSS menaça même Paris et Londres d'une frappe nucléaire. Néanmoins, tout se passa très bien et le canal de Suez fut nationalisé.
C'est dans ce contexte de tensions territoriales, commerciales et militaires que se développa la guerre de six jours presque 10 ans plus tard. Le 16 mai 1967, l'Égypte déclare un état d'alerte et procède à d'importants mouvements de troupes dans le désert du Sinaï, exigeant le départ des forces militaires de l'ordre de l'ONU qui s'y trouvent depuis 1957. Le 23 mai 1967, Nasser, qui en plus d'être président d'Égypte est devenu président de la République arabe unie, l'alliance développée avec la Syrie et le Yémen suite à la crise du canal de Suez, décide de bloquer l'accès pour les navires israéliens au détroit de Tiran, route du sud essentielle aux Israéliens pour l'approvisionnement en pétrole. Cette décision est sans précédent dans les accords internationaux sur les droits de passage dans le détroit signés en 1957 par 17 puissances maritimes. Israël considère cela comme un casus belli et sort à nouveau les armes. Commence alors la guerre de six jours, du lundi 5 au samedi 10 juin 1967, opposant Israël à l'Égypte, la Jordanie et à la Syrie. Les armées égyptiennes, syriennes et jordaniennes furent défaites. Les chars de l'armée israélienne bousculèrent leurs adversaires sur tous les fronts. En moins d'une semaine, l'État hébreu tripla son emprise territoriale. L'Égypte perdit la bande de Gaza et la péninsule du Sinaï. La Syrie fut amputée du plateau du Golan et la Jordanie de la Cisjordanie et de Jérusalem-Est. Plus symbolique encore que la défaite arabe fut la prise de la vieille ville de Jérusalem. Au sortir de la guerre, la navigation des navires israéliens par le détroit de Tiran fut assurée à nouveau et Jérusalem, qui était divisée entre Israël et la Jordanie depuis 1949, fut proclamé réunifié sous contrôle israélien. Dans l'observation, le Conseil de sécurité des Nations Unies se dit en désaccord et opta en 1967 la résolution 242 qui réclamait la fin immédiate de l'occupation israélienne. Cette résolution reste encore inappliquée. Elle ne précise toutefois pas comment devraient être restitués les territoires dont elle demande l'évacuation par Israël, les territoires aujourd'hui dits palestiniens étant avant 1967 sous contrôle jordanien ou égyptien. Le 12 septembre 1970, Hussein de Jordanie déclenche des opérations militaires contre l'Organisation de libération de la Palestine pour restaurer la légitimité de sa monarchie à la suite de plusieurs tentatives palestiniennes de la renverser. Le conflit entre l'armée jordanienne et l'OLP dégénère et se poursuit jusqu'en juillet 1971, date à laquelle Arafat et ses combattants sont finalement expulsés de Jordanie et trouvent refuge au Liban sous protection syrienne. Pourtant, le 15 novembre 1988 a lieu la déclaration d'indépendance de la Palestine à l'initiative de l'Organisation de libération de la Palestine en exil à Alger. Cette déclaration d'indépendance est reconnue par la Ligue arabe, regroupant aujourd'hui 22 États, et par l'Organisation de la coopération islamique auquel s'ajoutent 37 autres États. En 2011, la Palestine est acceptée par l'UNESCO en tant qu'organisation. En 2012, l'État de Palestine est reconnu comme État observateur non membre de l'ONU. Et en 2017, l'État de Palestine est reconnu par 136 États, c'est-à-dire 70,5% des 193 États membres que compte l'Organisation des Nations Unies. L'hymne que nous allons entendre maintenant s'intitule « Fidaï ». C'est l'hymne national de l'Organisation de libération de la Palestine, proclamé en 1988 en accord avec l'article 31 de la charte de l'OLP proclamant l'indépendance de la Palestine. Déjà adopté par l'Organisation de libération de la Palestine en 1972, cet hymne est composé par l'Égyptien Ali Ismaël et ses paroles sont écrites par le poète palestinien Saïd al-Muzayyin. Il parle des insurgés qui s'opposent à Israël. Fidaï signifie « celui qui se sacrifie pour quelque chose ou quelqu'un ». Bonne écoute!
C'est les allumeurs de réverbères.
La rubrique environnement.
Pour découvrir la photo sonore de cette émission, rendez-vous sur le site internet allumeurs-de-reverbères.fr.
L'aitriquêtre. J'ai envie de vous parler de l'aitriquêtre parce que c'est une plante que j'ai découverte dans ce jardin. L'aitriquêtre, c'est intéressant parce que c'est de la famille des... C'est un bulbe. Hein, donc, pour ceux qui veulent faire un petit parallèle, les bulbes, c'est les jacinthes, les jonquilles et les tulipes, toutes ces choses-là. Quand on regarde l'aitriquêtre, ça ressemble franchement à une jacinthe sauvage, sauf que la jacinthe sauvage est plutôt bleue, violacée, alors que l'aitriquêtre, c'est blanc. Mais quelqu'un qui est pas qu'un peu novice, et moi la première, hein, je vérifie toujours, je trouve que ça ressemble à une jacinthe sauvage qui aurait perdu sa pigmentation. Vous imaginez des petites clochettes blanches, très esthétiques. Et en fait, c'est un ail sauvage, tout simplement. Alors on connaît l'ail des ours, on connaît différents types d'eau. Et l'ail triquêtre, eh ben, c'est cool, parce qu'on peut en mettre dans les salades... Même la feuille, hein, en l'occurrence, elle est sympa. C'est intéressant parce que les plantes, en fonction des moments de la journée, elles vont avoir plus ou moins d'odorat et de goût. Et ça, j'ai pas encore tout bien compris. Mais ce qui est certain, c'est que des fois, je sens un truc, ça sent pas, et deux heures après, ça sent. Donc bref. En tout cas, l'aitriquêtre, il est effectivement bon à mettre dans les salades. Et surtout, il pousse naturellement. Nous, on l'a jamais implanté dans notre jardin. Il est venu sans doute avec l'aide d'un petit oiseau, hein, qui un jour a ramené un petit bulbe comme ça, ou de la précédente propriétaire qu'on avait peut-être mis toute seule, hein, dans son jardin. Il a comme ça peut-être végété pendant un ou deux ans, puis au bout d'un moment où on cligne quelque part terre, paf, il y a des plantes qui revivent, qui reviennent, qui ont peut-être été un peu endormies depuis quelques années et qui d'un coup reprennent leur place. Nous, c'est vrai qu'on a vu beaucoup d'aitriquêtres réapparaître dans notre jardin. Et effectivement, on l'utilise en salade. Et là encore, hein, comme toutes les fleurs, ça va permettre de nourrir les insectes. Parce que voilà, un jardin qui va bien, c'est un jardin où il y a de la vie. Hein. Là, on parle de végétal, mais bien évidemment, c'est une osmose entre tous les éléments du vivant. Donc, les humains, évidemment... les différents types de végétaux, donc ce soit les arbres ou les fleurs ou les adventices ou les arbustes, puis après les petits animaux aussi. Donc on a effectivement notre chatte dans le jardin, on a aussi des chats sauvages qui se baladent, on a aussi des poules, et tout ça, ça va venir en fait faire évoluer tout simplement l'écosystème. Je dis un truc très con, par exemple, quand nos poules sont dehors, elles vont déposer des fientes sur le sol dehors, qui vont venir nourrir le sol, et peut-être permettre, je sais pas, une pousse d'un végétal qui n'était pas prévu à la base, quoi. Il s'est pris un peu de fientes de poule sur la tronche, et donc ça fait que la graine, elle va peut-être pousser plus vite. Là, je suis dans l'hypothèse, mais ce qui est certain, c'est qu'avoir des poules qui se promènent dans un jardin, ça va faire un apport en fientes qui est génial. Il faut savoir que le caca de poule, c'est un des meilleurs engrais qu'on puisse imaginer en engrais animal, pour le coup, et qui va vraiment nourrir les sols. Donc si les sols sont nourris, bah, tous les petits végétaux qui peut-être n'osent pas trop montrer le bout de leur nez, ils vont se sentir plus nourris, et ils vont pousser plus sereinement, quoi, tout simplement.
Les allumeurs de réverbères.
Tu vas arrêter de crier, s'il te plaît.
Bah, tout le monde crie, maman, maintenant.
Il a pas tort.
Il a même raison.
Bah oui, c'est la mode.
C'est la mode.
Mais non, qu'est-ce que vous racontez? Il y a encore des gens qui savent parler normalement. Venez voir, ils sont par là. On les appelle les constructeurs, les terrestres, les bons vivants.
Idéalistes, réalistes, positifs.
Aventuriers?
Des résistants, avec un grand R.
Oh, oh.
Et qu'est-ce qu'ils font?
Ils s'occupent des autres.
Oh. Oh.
Allez, c'est parti, mes petits loups. C'est la pause campagne, on prend un grand bol d'air frais.
Les allumeurs de réverbères.
Quand ma fille avait 2 ans, j'essayais de lui faire comprendre le cycle de la vie en lui posant en boucle ces questions. Qu'est-ce qu'il y a dans l'arbre? Des fruits. Qu'est-ce qu'il y a dans les fruits? Des graines. Et qu'est-ce qu'il y a dans les graines? Des arbres. Une leçon de choses simpliste mais marquante. Bientôt, ma fille apprendra à l'école que l'homme préhistorique était d'abord chasseur-cueilleur, puis qu'un jour, en oubliant sa cueillette devant chez lui, il vit que les baies qu'il mettait des heures à glaner poussaient en abondance et à portée de main. Plus tard, il découvrit qu'en choisissant les plants les plus généreux, les fruits les plus charnus, et en ne mettant que cela en terre, la génération suivante allait répéter et amplifier la qualité de ce qu'il avait semé. Ainsi, la semence devint un pouvoir et un don qu'il rapprocha de sa propre semence dispensatrice de vie et de celle du dieu des récoltes nouvellement ajoutée à son panthéon. Une leçon plus récente rapportée par mon père, qui se trouvait au Burkina Faso, et il pensait naïvement faire des heureux avec des stylos billes ou des vieux t-shirts, mais les paysans qu'il a croisés près de Garango lui ont demandé s'il avait des graines. Pourquoi des graines? Les paysans de cette région peuvent avoir besoin d'eau, d'engins, de fertilisants, mais pourquoi cette chose aussi simple? Encore une fois, la leçon de choses a été balayée par l'ordre qui s'est mis en place depuis la fin de la Deuxième Guerre mondiale. Les semences, premier intrant de l'agriculture, sont devenues un produit commercial, réglementé, contrôlé, marketé et distribué par des acteurs dont c'est le métier. Les semences sont décrites en France dans le catalogue officiel des espèces et variétés potagères, géré conjointement par l'INRA et les groupements des semenciers, et créé à la base pour éviter les fraudes. Mais par excès de vertu, ce catalogue est devenu une définition restrictive, par définition, de ce qu'on a le droit d'appeler une pomme, un chou, etc. Il sert essentiellement à protéger la propriété intellectuelle des semenciers. Et même s'il compte 9000 variétés, seule une poignée se retrouve dans nos champs et dans nos assiettes, et la qualité mise en avant se résume à la performance et à la pureté génétique des variétés. En pratique, les agriculteurs et les jardiniers achètent à des semenciers des graines de variétés dites hybrides F1, qui sont issues du croisement entre deux variétés pures, et qui garantissent des productions homogènes, de qualité optimale et prédictible. S'ils essaient de ressemer les graines qu'ils ont obtenues, les plantations perdront cette qualité et cette prédictibilité. Ils ont donc tout intérêt à racheter des semences. À la marge, un agriculteur peut produire ses semences dites fermières à partir de certaines semences certifiées, mais il doit verser une redevance pour la propriété intellectuelle. La méthode traditionnelle, qui consistait à sélectionner et à créer ses propres semences issues de variétés pas forcément certifiées, est marginalisée et la vente de ces semences dites paysannes est interdite suite à la bataille législative qui a eu lieu en 2018 dans le cadre de la loi Egalim. Alors certes, les individus issus d'hybrides certifiés sont les plus performants quand tout va bien, quand les intrants et le climat sont au rendez-vous, mais quelle garantie de survie nous offre-t-il quand tout va mal? La capacité à conserver ses propriétés après un stress, qu'on appelle la rusticité, peut venir d'un individu qui n'offre pas a priori des qualités optimales, ou d'un ensemble d'individus offrant un pool de gènes suffisamment diversifié pour que certains puissent survivre à un stress majeur. Dans la nature, la vie s'est développée à passer les pires cataclysmes pour prospérer aux endroits les plus absurdes, parce que justement elle n'avait pas d'uniformité, pas de définition, pas de catalogue. La biodiversité, et on peut l'étendre à la diversité, est un gage de résistance. Au-delà de cet aspect, il ne faut pas oublier que le patrimoine végétal, domestiqué ou non, est un bien commun de l'humanité. Et il est choquant de soumettre le fruit de l'évolution à la classification et à l'appropriation par certains, au détriment de l'autonomie économique, alimentaire et culturelle des communautés partout dans le monde. Depuis 20 ans, l'association Cocopelli collecte et distribue ces semences paysannes qui correspondent à des variétés créées et cultivées de façon plus ou moins formelle depuis des siècles, dont certaines étaient en passe d'être oubliées, car adaptées à un terroir spécifique. Ce n'est pas la seule initiative de ce type, on retrouve aussi les femmes semencières ou graines de troc, mais c'est celle qui milite de façon la plus visible pour la libération des semences. Le fondateur de Cocopelli, parmi d'autres positions discutables, est un partisan de l'hypothèse Gaïa, d'un système Terre avec lequel on a d'autres choix que de coopérer. Derrière ces actions, il y a l'idée que les catalogues et les actions des semenciers sont la négation de cette symbiose entre l'homme, entité libre, survivante et pensante d'un côté, et de l'autre la nature, entité inclassifiable, opportuniste et créatrice d'opportunités. Alors on peut modérer et considérer que le catalogue est nécessaire à la bonne tenue du commerce, que les fermiers amateurs peuvent toujours s'échanger sans crainte de la police des sachets de graines. Il reste que la tendance est à l'appauvrissement du vivant, et que les menaces climatiques et biologiques pèsent lourdement sur un système agro-industriel soumis au soubresaut du capitalisme et qui nourrit des milliards d'individus avec seulement une poignée de chromosomes. Il y a un combat en cours pour que les cultivateurs partout dans le monde puissent reproduire et échanger leurs semences. Parce que la graine apporte l'autonomie et la résilience. C'est l'or des archipels.
Les allumeurs de réverbères.
La rubrique élue un jour. Bonjour, je suis Delphine, je vous présente aujourd'hui Solène Ménager.
Bonjour, aujourd'hui nous sommes avec Jean-Pierre Le Scurvet.
Bonjour, aujourd'hui nous sommes avec Mélanie.
Bonjour à tous, aujourd'hui on est avec Adrien Mottet.
Donc je m'appelle Adrien Mottet.
Bonjour, je m'appelle Mélanie Firmès.
Bonjour à tous, donc Solène Ménager.
Jean-Pierre Le Scurvet.
J'aimerais savoir qu'est-ce qui a fait que vous avez eu envie de vous engager.
En fait, on est une famille où la politique n'était absolument pas tabou, où à chaque repas de famille, en fait, on parlait politique. Avec des points de vue très différents, puisque j'avais une partie de ma famille qui avait plutôt des idées de droite et l'autre de gauche. Je sais pas pourquoi j'ai basculé du côté gauche, mais en tout cas, une tradition, en fait, de parler politique en famille, de s'intéresser. Je lisais le journal tous les jours, j'écoutais la télévision, et puis mes amis aussi étaient assez portés également sur l'intérêt général, sur les affaires communales, en tout cas à l'époque quand j'étais à Morlaix. Et puis ce virus-là m'a animé toute ma carrière depuis, puisque y compris lorsque j'ai fait le choix universitaire, j'ai fait un choix qui m'amènerait forcément à croiser les collectivités locales. Donc voilà, j'ai l'impression que c'était une sorte de destinée. Le fait que je sois maire aussi n'est pas forcément le fruit du hasard, c'est que je m'étais préparé à ça, consciemment ou inconsciemment, mais j'étais prêt. Je suis un produit d'exportation en fait, hein, puisque je suis né dans le Finistère, j'y ai vécu toute mon enfance et je suis arrivé un peu par hasard à Mayenne comme directeur de cabinet de Claude Leblanc, qui faisait suite d'ailleurs à une première expérience professionnelle. J'étais journaliste au Télégramme de Brest auparavant. Mais j'avais toujours l'appétence pour le développement local, pour la politique au sens vie de la cité. J'ai d'ailleurs suivi un cursus universitaire qui se prêtait à ça, puisque j'ai été spécialisé plutôt dans le développement local. Donc ce poste de DIRCAB me plaisait bien. En me disant qu'au départ, je vais rester quelques années, forger un CV, et puis ensuite partir. Et puis la ville m'a plu, le territoire m'a plu. J'ai rencontré une Mayonnaise, donc voilà, depuis je suis bien et je me suis installé. Donc j'ai travaillé auprès de Claude Leblanc, ensuite j'ai été élu vice-président à la région auprès de Jacques Auxiette pendant deux mandats. Donc je m'occupais d'environnement mais aussi d'attractivité, de développement territorial. J'étais un peu la tête de pont entre la région et les différents territoires ligériens. Voilà, et puis ensuite une défaite aux élections régionales, et puis comme je ne suis pas fonctionnaire, j'ai trouvé un boulot de salarié dans un organisme à Laval, et puis parce que une fois qu'on est dans la seringue, c'est difficile de s'en passer, en fait, j'ai replongé à l'occasion des élections municipales, et donc formé autour de moi un groupe, une équipe, une belle équipe. Les électeurs ont décidé que je serai un bon maire, j'espère en tout cas, on verra dans 6 ans. Et donc voilà, depuis je m'occupe des affaires municipales mais aussi intercommunales.
Et voilà les allumeurs de Réverbère, c'est terminé pour aujourd'hui. Rendez-vous le mois prochain pour de nouvelles rubriques, de nouveaux sujets et encore plus de rédacteurs. D'ici là, si vous souhaitez en savoir davantage sur l'équipe, connaître les détails de l'émission, participer au lot de citoyens, rendez-vous sur notre site internet allumeurs-de-reverbère.fr et sur les réseaux sociaux @lesallumeursdereverbère. Retrouvez aussi l'émission en écoute sur l'autre radio, 107.9 Château-Gontier, 101.7 Laval, l'autreradio.fr et en podcast sur Spotify. Cette émission a été réalisée par Clément Mousset, Antoine Lair, Delphine Ramon, Myriam Samour, Muriel Tillard, avec la participation d'Anne-Laure Rousseau et de Jean-Pierre Le Scurvet. Coordination, montage et habillage musical par Happy London Call. Nous sommes les allumeurs de Réverbère et nous vous souhaitons force et courage, amour, paix et prospérité, solidarité nationale et internationale, des rêves, de la résistance et des constructions extraordinaires à taille humaine. Bonne lumière à tous. Salut.
Salut petite.
Au plaisir.
Au revoir, au revoir.
C'était un plaisir de vous rencontrer.
Non mais vous allez pas en faire des tonnes non plus, on soit bien.
Georges, vous êtes un sacré grognon.
Wow, 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 partez pas si vite. Vous oubliez quelque chose, il me semble.
Je te croyais pas. Ah non, 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 je vois pas, ça c'était marqué, servez-vous.
Mais de quoi vous parlez?
Et vos petits amis, là? Allez!
cet instant de relaxation vous était proposé par
les allumeurs de réverbères.